J'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canut si vous nous rejoignez. C'était donc juste avant nous les bandes continues, les célèbres bandes continues de Radio Canut. Et vous êtes en direct, nous sommes en direct à l'antenne avec Laurent. Bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Pour une petite heure d'infos, d'actu, voilà, c'est riche en ce moment, il se passe plein de choses hein, quand même. Oui,
comme
alors il y a
ouais.
Un sujet effectivement assez central, mais au-delà de ça, il se passe quand même plein de choses. Hein. On a l'impression que ça y est, les news sont sorties un peu de leur confinement. De quoi allons-nous parler ce soir?
De plein de choses.
De plein de choses. Oui, ouais. Voilà, vous allez voir que c'est un peu peut-être fouillis ce qu'on va vous proposer. Voilà, parce qu'on avait justement plein de choses à dire et plein de choses à râler et à raconter. Évidemment, nous allons tout de suite parler de la première création en céramique de la princesse Mette Marit de Norvège. Ça me semble extrêmement important dans le cadre de tout ce qui se passe dans l'actualité de suivre la voie ouverte par Paris Match.
Oui, bah.
Pour le suivi quand même de nos têtes couronnées.
C'est leur credo.
Oui, mais parce que tu vois, ça c'est un talent caché et les résultats sont impressionnants, paraît-il. Moi, je trouve que ça, c'est central et on devrait plus en faire, en fait. Toi, c'est une demande que je te fais officiellement.
Ok, plus parler de Paris Match. Tu veux dire qu'on va se transformer en Edouard Berne, c'est ça?
Ah, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça, tu sais.
Donc, en dehors de ta princesse, là, t'as prévu de parler de quoi d'autre?
On va donc parler, hein, évidemment, des violences policières, de ce qui se passe en France. On aura une petite discussion sur les effets sur le capitalisme, hein, de ces mouvements qui se passent un petit peu de partout dans le monde. On parlera du monde d'après, qui ressemble au monde d'avant. Donc là, on parlera de pollution, des petits fachos, de contrôle des populations, de l'armée. Et puis, nous parlerons aussi de colonialisme. On parlera de statues, de monuments, et puis d'autres. Voilà, ça nous permettra de parler culture, censure, colonialisme. On parlera un petit peu de capitalisme avec le MEDEF. Hein, c'est toujours bien, le MEDEF. Samsung aussi, et puis d'autres choses. Voilà.
Alors, je vais ouvrir ce Canut Info avec une question que je me suis posée. La France applique-t-elle toujours la peine de mort? Et je vais donner deux infos et vous ferez votre avis vous-même. Alors, on va parler d'une vieille info hein, qui date de 2017, c'était il y a donc 3 ans. Le GIGN tuait Angelo Garand à Blois de 5 balles dans le torse. Et la Cour de cassation doit statuer sur le pourvoi formé par la famille de cet homme, donc tué par les forces de répression françaises. Donc cette juridiction doit statuer sur le pourvoi formé par 8 parties civiles contre les non-lieux. Qui ont disculpé les deux membres du GIGN mis en cause. Jeudi de la semaine dernière, l'avocat général et le conseiller rapporteur de la chambre criminelle ont estimé la demande non admissible. Mais c'est pas la réponse officielle encore. La cour doit rendre sa décision le 17 juin prochain. Alors on va revenir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet homme a été tué de 5 balles, parce que 5 balles ça rigole pas quand même, c'était sûrement un dangereux terroriste. On va voir que c'est pas tout à fait ça. Alors dans les faits, juste avant d'expliquer les circonstances, les proches, donc ces 8 parties civiles dont les proches, des gens qui sont aussi concernés par l'affaire, notamment Hawa Gaï, qui est la sœur de Babacar, qui a été lui aussi tué par les forces de l'ordre à Rennes il y a quelque temps, ils sont vraiment déterminés, ils sont soutenus, et si jamais ça passe pas à la Cour de cassation, ils vont aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors qu'est-ce qui s'est passé en mars 2017, on était le jeudi 30, très exactement, et c'était 13h. On est à Seurre, dans le Loir-et-Cher. Une quinzaine d'hommes armés en uniforme pénètrent dans la ferme d'une famille dite de gens du voyage, réunis autour d'un barbecue. Ils recherchent donc ce fameux Angelo Garand. Les membres du GIGN, puisque c'est d'eux dont il est question, mettent en joue tous les hommes, voire les femmes présentes, mais notamment les hommes, les menottent au sol, puis font une perquisition. Grosso modo, Angelo Garand, alors si on suit les médias dominants à la botte un petit peu de la police et du sensationnalisme, c'est un gitan en cavale, un multirécidiviste. En fait, il s'est barré 6 mois avant lors d'une permission de sortie, il n'est pas retourné. Alors il était en prison pour conduite sans permis, des vols et une bagarre. Pas des trucs, c'est pas un grand criminel non plus, c'est pas un terroriste, c'est pas un pédophile, enfin voilà, on est dans de la petite délinquance qui conduit à de la prison au bout d'un moment. Alors, pourquoi du coup un tel commando, le GIGN, pour interpeller un délinquant pas très dangereux, qui est pas retourné en prison, qui s'est fait la malle. C'est toute la question. Alors, Libération avait balancé une info, puisqu'il y avait en fait un exercice. Ça serait peut-être un exercice de l'antenne de Tours du GIGN que cette intervention, ils en ont profité pour faire un exercice. C'était peut-être cet exercice qui a mal tourné, en tout cas c'est sûr. Donc grosso modo, les personnes sont à terre, menottées, et là les gendarmes entendent du bruit dans une remise. C'est là où en fait se cachait Angelo. 5 membres du GIGN s'y précipitent. On entend ensuite 8 coups de feu. Alors selon la version officielle de la police, Angelo les aurait attaqués au couteau après avoir résisté à des tirs de taser. Bon, je sais pas comment on résiste à des tirs de taser, mais lui il est très fort, il y a résisté. La famille affirme n'avoir de son côté entendu aucune sommation et conteste bien évidemment cette version et parle d'exécution. C'est vrai que, bon, on imagine, Angelo, il avait certes un couteau, mais un couteau contre 5 hommes surarmés du GIGN avec des tasers et des armes, il devait pas faire quand même bien peur, le petit Angelo, enfin le Angelo. Donc 6 mois après les faits, les 2 tireurs du GIGN, sur les 5 qui sont rentrés, il y a 2 tireurs, sont mis en examen pour violence volontaire et ont entraîné la mort sans intention de la donner par une juge d'instruction qui va vite être dessaisie du dossier. En octobre 2018, un non-lieu est prononcé, ordonné par un nouveau magistrat. Motif, je cite, il y aurait légitime défense de la part des gendarmes. Les proches du défunt font bien évidemment appel de la décision. Février 2019, c'est la suite, non-lieu est confirmée cette fois par la Cour d'Orléans. Cette fois, la décision se fonde sur la nouvelle loi de sécurité intérieure qui venait d'être promulguée, et notamment l'article L435.1 qui étend le droit d'usage des armes au-delà de la légitime défense. Du coup, au nom de ce truc qu'on a le droit de tirer sans légitime défense, on relâche les personnes qui ont tué cet homme. Alors cet arrêt va avoir un impact important parce que c'est la première jurisprudence de ce nouvel article légalisant grosso modo le droit à tuer sans être en légitime défense. C'est pour ça que c'est quelque chose d'important. Et la bataille du collectif qui s'appelle Justice pour Angelo, c'est entre autres sortir de cette simple condamnation de Angelo pour dire attention, il faut surtout pas que ça devienne, que ça fasse jurisprudence et que ça légalise le permis de tuer accordé aux forces de l'ordre. Par la suite, en février 2019, toujours, les 8 parties civiles donc, vont en cassation. Ils ne statuent pas sur le fond en cassation, mais sur la conformité juridique des décisions. Voilà, ils estiment que les gendarmes auraient répondu à une riposte avec une riposte graduée. Alors moi, la riposte graduée face à un mec avec un couteau, alors qu'on est surarmé, ça paraît compliqué. Je ne sais pas comment ils peuvent justifier juridiquement que deux mecs qui tirent avec des armes face à un mec simplement armé d'un couteau. Bon, bref, ils y arrivent. La justice y arrive quand il faut défendre la flicaille. Pourtant, alors il y a plein de zones d'ombre, il y a plein d'incohérences dans l'affaire. J'en citais quelques-unes. Donc Angelo est officiellement muni d'un couteau. Bizarrement, le médecin urgentiste, quand il déclare la mort, il déclare que le gars, que Angelo n'était pas armé. Le médecin qui est hors de l'armée, de la police, voilà. Bizarre, hein. Ensuite, en fait, il découvre qu'il a été menotté, puis démenotté et remis dans une autre position avec le couteau bien en évidence. Ça ressemble à une mise en scène quand même. Donc il y a un truc louche là-dessous. Après, ils disent, les flics disent avoir tiré les deux tasers en même temps. Or, en fait, ils n'ont pas été tirés en même temps, les tasers. Laissant entendre qu'il aurait déjà été touché, puis qu'il aurait retouché une fois, puis bon, après, ils ont tiré à balles réelles. Il y a plein d'incohérences aussi dans les expertises balistiques. Enfin bref, ça ne tient pas vraiment la route. Donc là, la cour doit rendre son arrêt le 17 juin. Voilà, pour voir si les flics ont le droit d'appliquer la peine de mort sans décision de justice ou pas. Voilà. Et autre chose sur la peine de mort appliquée sans décision de justice, c'est celle-là qui est officielle et qui est assumée par le gouvernement français. Alors on va parler de la mort du leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'acronyme c'est ACMI. C'est Abdelmalek Droukdal. Donc il a été, ça a fait la une des journaux, hein, assassiné par l'armée française dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne, la semaine dernière. On était le 3 juin. Vendredi dernier, d'ailleurs, Florence Parly, la ministre de l'armée et de la guerre, avait annoncé fièrement l'élimination de Droukdal, tué donc à Talandak, vers la ville malienne de Tessalit. Elle a expliqué aussi que plusieurs de ses proches collaborateurs ont été neutralisés. Joli terme pour dire qu'ils ont été tués, en fait, puisqu'il a été tué, lui, avec 3 autres personnes. Donc, ils appellent ça neutralisé au ministère de la guerre française, quand ils assassinent des terroristes, parce que pour le coup, c'est des terroristes, hein, ou en tout cas des gens appartenant à la mouvance terroriste. Voilà, mais ça parle d'être humain, mais vraisemblablement, c'est pas la perception qu'en a Florence Parly. L'opération, alors du coup, on a eu quelques infos depuis. Donc, les Américains étaient associés à l'opération, hein, ceux qui ont donné les renseignements sur ce qui s'est passé. La cible, ils appellent ça comme ça dans les services de l'armée, était suivie depuis 2 jours dans la région et ils avaient été identifiés vraiment grâce à l'armée américaine. Ensuite, l'armée française est intervenue en plein jour, hein, parce que c'était plus pratique. Grosso modo, il y avait une quinzaine de militaires français, des hélicoptères, un drone Reaper et sûrement des membres de l'armée américaine, mais ça, on n'a pas d'infos du tout là-dessus. Donc l'idée, c'était de les tuer tous. Ce qu'ils ont fait quasiment, alors il y en a qui sont quand même pu s'enfuir, ils ont arrêté quelqu'un qui a été remis aux autorités maliennes. Alors la question n'est pas de savoir si ce qu'il fallait faire, ce qu'on est en droit de faire. En tout cas, en France, qui est soi-disant un état de droit, la peine de mort n'est pas autorisée, même avec décision de justice. L'armée, elle, s'abolit totalement de l'état de droit et la ministre peut ordonner l'assassinat d'une personne étrangère en dehors du territoire français. Et c'est bien de ça dont il est question. Les armées françaises continuent d'assassiner à l'étranger. quelle que soit la raison. Et là, on a une raison détaillée, puisqu'ils l'assument, ils expliquent que ce chef de terroriste a été donc assassiné. Alors ça remet en cause, ça reparle de la présence française dans ce bout de Sahel, parce que, bien évidemment, ces assassinats, c'est, voilà, ils récupèrent des scalps de djihadistes, ils sont contents, ils les mettent dans leur bureau. En fait, ça apporte aucune solution, ni à l'Afrique de l'Ouest, ni à la lutte antiterroriste globale, et encore moins aux conflits politiques et sociaux qui ont lieu dans cette région. Bien sûr, vous savez tous, comme nous, que cette opération Barkhane, en fait, a pour but avant tout de sécuriser notamment l'uranium du Niger à côté, et puis de marquer le coup en disant, regardez, la France-Afrique est toujours là, la France continue sa politique néocoloniale dans cette région africaine. Mais il faut essayer de voir plus loin. Forcément, un jour, les troupes françaises seront obligées de partir. Sûrement dans, voilà, de manière ridicule, hein, parce que leur présence, vraisemblablement, n'est pas très efficace dans cette guerre contre le terrorisme. Alors, il faut savoir que c'est le souhait d'une partie de la population malienne qui pense, et c'est, il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec eux, que le djihad là, qui sert de terreau ou de point commun à ces groupes qui se regroupent et qui, au nom d'un islam radical, se battent, en fait, c'est que le paravent d'une rébellion dont les ressorts sont en réalité sociaux, politique, voire raciste, hein, puisque on sait qu'au Mali, une partie des populations sont mal vues, notamment voilà, ces nomades là qu'on avait dans le nord du Mali, et donc résoudre les problèmes sociaux et politiques, voire ethniques, et ben ça, d'après pas mal de gens, ça éteindrait en grande partie ces groupes terroristes. Et surtout, il faut le faire rapidement parce qu'ils ont de plus en plus de djihadistes internationaux, notamment revenant de Syrie, qui viennent alimenter ces troupes. Et après, la situation va devenir incontournable. Donc la France est co-responsable du maintien finalement de la présence des islamistes et co-responsable de la non-solution politique et sociale que le gouvernement malien pourrait trouver, notamment avec les populations qui sont exclues depuis très longtemps du Mali et de la politique malienne. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces assassinats que peut faire l'État français.
Pour rester un peu dans cette idée, on va parler de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale.
Les boeufs carottes.
Ouais, sauf que boeufs carottes, ça fait presque sympa, alors que quand on pense à ce que fait l'IGPN, ça fait moins rire. Vous savez, l'IGPN sort un rapport d'activité, donc on a eu ce rapport d'activité annuel qui a été publié. Et alors c'est un espèce de bilan des infractions alléguées et des enquêtes administratives qui visent les policiers. Et donc en 2007, 62 allégations et 42 enquêtes étaient liées à des injures à caractère raciste ou discriminatoire. En 2018, c'était 46 enquêtes et qui étaient liées donc à la case injures à caractère raciste ou discriminatoire. Et alors cette année, dans ce rapport, ça apparaît plus.
Ils l'ont enlevé, a priori, non, au dernier moment, c'est pas ça?
Alors, ils l'ont enlevé. Alors, c'est marrant parce que Le Parisien, qui pour une fois s'intéresse à autre chose qu'au PSG, s'est adressé à l'IGPN, a priori, et a eu cette réponse. Ce rapport donne des grandes tendances, il n'a pas vocation à être exhaustif.
Voilà.
C'est vrai que ce serait dommage, hein, surtout en ce moment.
Bizarrement, ça y était dans ceux d'avant.
C'est ça. Alors, il paraît qu'en fait, ils ont gardé quatre types de problèmes, de manquements. Et que comme après, les injures à caractère raciste ou discriminatoire, ça arrive un peu après.
Ils l'ont enlevé.
Voilà, c'est juste, assez symptomatique quand même.
De toute façon, avant, quand ça apparaissait dans le rapport, il n'y avait quand même quasiment aucune condamnation derrière. Hein. Donc,
non, mais c'était moins
écrit dans un rapport, c'est tout.
C'était censé... Alors après, il y en a qui vont me dire que c'était mal compté, j'entends. Mais il y avait au moins un chiffre, quelque chose. Là, c'est plus le cas.
C'est un moyen finalement de nier le problème, c'est d'enlever l'instrument de mesure.
Alors, tous ces mouvements contre la police, contre les violences policières et contre le racisme amènent évidemment des répercussions dans le monde du capitalisme avec un C majuscule. Alors, il y a des trucs marrants. Par exemple, chez Lego, Alors si vous lisez Courrier International, vous pourriez par exemple lire cette information aussi dans cet hebdo. Il y a eu une grande rumeur qui s'est répandue sur les réseaux sociaux aussi. Lego allait arrêter les figurines et les petites montages de la police et de la Maison Blanche, puisqu'en ce moment on parle aussi beaucoup de Monsieur Trump. Alors c'est une nouvelle, une rumeur qui est tout à fait fausse. Lego ne va pas arrêter de faire des commissariats, des voitures de patrouille, ou ça je l'ai appris dans Courrier International, je ne l'avais pas lu ailleurs, l'inauguration du magasin de donuts, c'est-à-dire il y a un policier et un voleur.
Oui, voilà. C'est assez drôle.
Je savais pas.
De mettre en scène, tu vois, et puis après tu...
Enfin, donc, par contre... La réaction de Lego, c'est d'arrêter les campagnes de promotion et communication de ces produits spécifiques à la police.
Après, ça
pour les enfants.
Voilà, ça permet à des gens de faire des montages sympathiques avec des Lego, ou alors on a vu beaucoup avec des Playmobil aussi, avec les policiers mis en scène, en train de faire ce qu'on voit dans les vidéos d'aujourd'hui, tu vois.
Mais quand tu es un petit enfant, tu peux prendre n'importe quel petit figurine et la transformer en flic à qui tu fais échapper le voleur. Donc voilà, c'était une première action. Alors Lego a aussi expliqué de faire un don de 4 millions de dollars à des organisations aux États-Unis d'Amérique pour soutenir les enfants noirs participer à l'éducation.
Alors, faut savoir que le racisme, c'est pas que les Noirs, en fait. Du coup, c'est contre le racisme en général. Voilà.
C'est comme ça pour l'instant, mais voilà, c'est ce qui est présenté. Hein. On sent aussi qu'il y a une période particulière sur laquelle les entreprises tentent de répondre. Et puis, évidemment, ça, les entreprises, hein, vous avez certainement entendu parler, ces entreprises qui veulent renoncer à la reconnaissance faciale à destination de la police, des forces de l'ordre. Alors, c'est IBM qui a ouvert le jeu. On va dire
De manière un peu hypocrite.
De manière un peu hypocrite. Alors, l'idée, c'est d'être opposé pour IBM à l'utilisation de toute technologie à des fins de surveillance de masse, de profilage racial, de violation des droits et libertés humaines de base ou encore tout objectif contraire à nos valeurs. Ça, c'est ce qui est expliqué donc par IBM. IBM veut lancer un grand débat, un grand dialogue sur les technologies de reconnaissance faciale pour savoir comment elles peuvent être utilisées, à quel moment et par qui. Alors, c'est bien de se poser la question en 2020, mais enfin, bon, c'est pas non plus totalement nouveau cette idée d'utiliser la reconnaissance faciale à des fins de répression. Donc, la Chine.
Puis c'est facile pour eux de dire ça, ils sont pas du tout leaders dans le genre, ils sont même un peu largués. Du coup, c'est peut-être qu'ils avaient prévu d'abandonner ce genre de truc parce qu'ils sont dépassés et ils trouvent une belle excuse. Un droit de l'homiste, comme on dit. Voilà, bon, c'est toujours mieux que rien, mais voilà.
Voilà, alors du coup, Amazon répond aussi. Et veut interdire donc à la police américaine d'utiliser son logiciel de reconnaissance faciale pendant un an. Il y a un début puis il y a une fin. Non mais parce que bon, ça va peut-être se tasser tout ça. C'est peut-être que Jeff Bezos se dit dans son grand bureau ou son petit bureau, je ne sais pas quelle est la taille de son bureau. Mais voilà, c'est pour Amazon de prôner des régulations plus strictes et des gouvernements sur le recours éthique aux technologies de reconnaissance faciale. Donc le recours éthique, on attend donc ce que c'est qu'un recours éthique pour utiliser cette technologie particulière. Bon, évidemment, Amazon suit IBM, ce sont des entreprises et des multinationales qui aujourd'hui sont attaquées par des groupes pour les droits humains, pour la liberté et contre la répression, donc c'est pas tout à fait nouveau. Mais Amazon, de toute façon, est dans une espèce de lignée, puisque Jeff Bezos dit aux clients racistes de s'en aller puisque ça lui plaît pas qu'il y ait des racistes, paraît-il, sur sa plateforme d'achat. Donc il les engueule. C'est marrant quand même cette réaction d'un seul coup de grands patrons de multinationales. Alors c'est bien, c'est plutôt bien.
Alors c'est toujours mieux que rien, même si c'est du calcul aussi commercial. Mais tant que ça va dans le bon sens, c'est toujours positif.
Le truc, c'est que lui-même a reçu pas mal de haine, puisque évidemment, comme tous les grands du capitalisme, on peut imaginer qu'il reçoit un certain nombre de courriers qui sont suivis sur les réseaux sociaux. Et comme il avait pris parti, il s'en est pris un peu plein la gueule par les racistes et les suprémacistes aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, il essaye de... Bah, c'est bien, il faut que les gens prennent la parole et ne... Voilà. Mais on sent quand même qu'il y a un... des particularités qui se mettent en place aujourd'hui. En même temps, on pourra juste rappeler que le Congrès américain a demandé à Amazon de se présenter précisément à monsieur Bezos, et en fait il a envoyé quelqu'un d'autre à sa place, hein. On est là sur la position du central de Amazon sur la vente et les plateformes, et donc le Congrès américain souhaite faire parler, s'exprimer monsieur Bezos sur sa stratégie, et en fait il n'y est pas allé au rendez-vous. Donc voilà, c'est aussi des gens qui font un peu comme ils veulent. Et puis on a Reebok qui était bien embêté aussi avec un partenariat qui touche CrossFit, puisqu'il y a eu un tweet du PDG Greg Glassman, It's Floyd 19. Je vous le fais en moitié en anglais, en moitié en franglais. C'est-à-dire une espèce de jeu mot avec le Floyd.
Oui, du nom du policier, du noir tué par le policier.
Voilà, et du Covid-19, c'est nauséabond hein, quand même. Ouais. Donc Reebok s'est fâché et a mis fin à son partenariat. Alors, il n'est pas radical, hein, puisqu'ils vont au bout du contrat quand même.
Ah oui.
Ah bah oui, mais sinon tu imagines que tu payes des amendes et puis tout ça c'est compliqué. Mais voilà, comme Reebok c'est un gros sponsor de CrossFit, ben j'imagine qu'on va penser que les autres sont dans la merde. Alors du coup, en plus chez CrossFit, il y en a a priori des histoires de franchisés aussi, enfin d'affiliés plutôt, et il y en a qui ont été assez émus par ce racisme et donc quittent aussi CrossFit. Enfin, ça m'a emmerdé. Voilà, on a aussi Nike qui s'est engagé à donner 40 millions de dollars. Bon, on va voir, c'est pas non plus des sommes énormes. Et puis on a des entreprises qui font des trucs qui amènent encore plus de polémiques, c'est marrant. Mais parce qu'on sait tout de suite que l'extrême droite française adore ce genre de choses, alors que ça se passe aux États-Unis d'Amérique. C'est Uber Eats qui a lancé, via son application aux États-Unis d'Amérique et au Canada, un principe, c'est que si tu achètes dans des restaurants dont les propriétaires sont noirs, tu ne payes pas les frais de livraison. Alors c'est un truc un peu bizarre évidemment, puisque...
Et ils payent les livreurs quand même, parce que ils sont capables d'enlever de l'argent.
C'est vrai qu'ils méritent, sur des sûrs de rien. L'idée c'est de faire participer économiquement voilà, des restaurants et la population noire qui est plus en difficulté que pour les restaurateurs et les restauratrices blancs et blanches.
Après c'est aussi très typique des États-Unis, cette discrimination positive, où on aide en faisant des choses positives
c'est ça l'idée.
Sur les communautés.
Mais évidemment, voilà. Du côté des extrêmes droites françaises, comme aux États-Unis d'Amérique, tout de suite, on en appelle à un racisme anti-blanc. On rappelle
qui n'existe pas, tu veux dire.
Le principe du racisme, au cas où vous ne l'auriez encore pas compris, c'est qu'il y a des dominants. Des exploiteurs.
Voilà,
et des dominés et des exploités.
En Europe, aux États-Unis, c'est les blancs.
Voilà. Enfin, je veux dire, quand tu cherches un appartement, tu n'es pas discriminé quand tu es blanc, blanche. Pour trouver un travail, tu n'es pas discriminé parce que tu es blanc et tu es blanche. Tu peux être discriminé parce que tu es gros ou grosse. Mais.
Voir une femme, voir. Enfin,
voilà, mais je veux dire, donc. Le racisme, c'est quand même un truc qui. Voilà. Et donc, tous ces racistes qui se sentent visés dans leur chair blanche sont très contrariés, bien évidemment. Alors que, bon, là, il s'agit de réagir à une situation précise, de venir à des groupes de travailleurs, de travailleuses et de patrons et de patronnes plus en difficulté, en particulier dans certaines villes. Et puis, on rappelle que vous avez toujours le droit de faire ce que vous voulez, de manger où vous voulez. Hein, ça reste du capitalisme. Et puis après, il se passe d'autres choses un peu plus positives. Alors, il y a des tas de personnalités aux États-Unis d'Amérique, je bafouille ce soir, qui ont décidé de donner leurs sous. En tout cas en partie, pour les différentes organisations, les ONG, les associations, les collectifs contre les violences policières ou contre le racisme. Et puis moi, il y a un groupe qui m'a fait marrer, ça s'appelle BTS. Alors toi, tu savais pas ce que c'était. Non. C'est un groupe de K-pop extrêmement célèbre. J'adore pas la musique, hein, c'est juste que c'est extrêmement célèbre et qui a décidé de donner $1 million. Alors c'est un groupe, mais c'est quand même une belle somme.
Ah, oui.
Surtout, peut-être que voilà, vous avez pas tout compris, hein, K-pop. Corée du Sud, hein. Donc c'est des gens qui sont loin des États-Unis d'Amérique, mais voilà, qui ont décidé de participer à une lutte contre les discriminations raciales, et c'est des gens qui ont eu des fans, mais partout dans le monde, et qui sont en particulier au Japon et en Corée du Sud très très connectés et très très actifs donc sur les réseaux sociaux. sur Internet et qui ont aidé vraiment à répandre les mouvements anti-racistes en Corée du Sud et au Japon, ce qui est bien parce que ce sont des pays où il y a un fort racisme,
ouais,
mais
ça, ouais,
c'est surtout un fort nationalisme. Mais voilà, ça participe à ça et c'est vraiment un mouvement international et c'est ce qui est plutôt appréciable.
Alors, je vais parler du monde d'après qui ressemble étrangement, voire en pire, au monde d'avant avec trois petites infos. J'en ai enlevé une. La première concerne la pollution et sera typiquement lyonnaise. Vous savez tous que le confinement a eu un effet extrêmement positif sur la pollution atmosphérique. C'est celle-là dont il est question. On a eu une baisse très importante du trafic routier, à peu près 70%. Les émissions polluantes ont donc largement diminué à peu près de mi-mars jusqu'à début mai. Déconfinement, c'était le 11. Alors, il y a même un truc de dingue, les concentrations se sont même situées pendant plusieurs semaines, en dessous du minimum jamais enregistré ces 5 dernières années. Donc on avait, en 5 ans, jamais eu aussi peu de polluants sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. Un truc assez incroyable. Diminution aussi de 60%, donc dans les faits, du taux de concentration d'oxyde d'azote. Voilà. Même s'il y a eu un petit pic de pollution, à un moment, fin mars, quand il y a eu un retour du froid pendant quelques temps, les personnes qui se chauffent au bois ont à nouveau émis des particules. Autre type de pollution, mais ça n'a pas duré très longtemps. Alors aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'il en est? Puisqu'on nous avait parlé d'un monde d'après. À quoi ressemble donc ce fameux monde d'après vis-à-vis de la population dans le bassin lyonnais, dirons-nous? Alors certes, il y a encore plein de gens qui n'ont pas repris le travail ou l'activité. Les étudiants sont partout à la fac. Certains salariés sont toujours en télétravail. Donc on est loin d'être à 100%. Et bien pourtant, depuis quelques jours, les données fournies par la métropole, notamment puis ceux qui mesurent la pollution, montrent que le trafic automobile est à peu près revenu à la normale. On est entre 95 et 100% du trafic habituel. Alors tout le monde n'a pas repris le boulot, ça craint. Hein. Donc, retour des bouchons, ce que connaissent bien celles et ceux qui se déplacent en automobile. Du côté des transports en commun, on est à peu près 50% de l'utilisation moyenne d'habitude. Alors, ce qui a changé dans ce monde d'avant, c'est qu'il y a plus de vélos. On est passé, dans les mesures actuelles, de 200 000 cyclistes par jour dans l'agglomération à 300 000. Alors, ça représente toujours qu'aux alentours de 4% des déplacements, mais c'est un développement important. Le problème, alors on pourrait se dire, c'est super, c'est une bonne nouvelle, tout ça. Non. Parce qu'en fait, quand on regarde, du coup, avec les chiffres donnés par les autorités, le cycliste qui est plus nombreux, ou la cycliste, n'a pas enlevé du déplacement automobile, puisqu'on est quasiment à 100% aujourd'hui, ils ont enlevé de l'utilisation des transports en commun. Le truc qui n'est pas trop polluant. Et donc, c'est malheureusement l'impact qu'on a sur le développement du vélo, et notamment à Lyon, c'est que chaque fois que le vélo se développe, majoritairement, le vélo se développant, ça ne remet pas en cause, à une échelle suffisamment significative, les déplacements en automobile. Les automobilistes étant toujours ultra dépendants de leur voiture dans les trajets du quotidien, parce que c'est de ça dont il est question essentiellement pour faire les courses ou aller travailler. Voilà. Alors, y a-t-il un changement et une bonne nouvelle dans ce monde d'après? J'ai trouvé une petite info sur le déplacement qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est le retour de la liaison en train Lyon-Bordeaux. Cette liaison avait disparu en 2014. SNCF l'a trouvée pas rentable, ils l'ont enlevée. Là, c'est Railcop, donc une entreprise privée, qui veut remettre en route cette liaison. Vous savez qu'il y a une ouverture à la concurrence, une libéralisation du transport ferroviaire, et il y a des opérateurs privés qui vont se mettre soit en concurrence avec la SNCF, soit pour reprendre des lignes qui n'étaient plus utilisées. Alors c'est une bonne nouvelle, sauf que c'est super triste que ça soit la libéralisation qui amène le développement, le retour de certaines lignes ferroviaires. À savoir que l'État a décidé de ne pas aider quasiment le rail, mais de mettre des milliards dans l'aéronautique. Donc il y a un vrai choix politique, toujours orienté du côté de la destruction de la planète. Et voilà, donc c'est triste. Alors c'est plutôt positif que ça soit quand même que la ligne revienne, mais c'est fait par une entreprise privée et non pas par l'opérateur public. Alors, dans la série Le Monde d'après ressemble au monde d'avant, les fachos sont toujours là. Alors, vous avez peut-être vu cette mise en scène de la part de Génération Identitaire qui a lancé une milice pour contrôler les transports publics, justement, voir si tous les usagers avaient le masque, s'ils respectaient les consignes. Ça a fait réagir un petit peu, notamment certains avocats, ils sont 5 avocats, ils sont alliés avec un ancien magistrat, ils ont posé pour l'instant une pétition. Le but, c'est de faire pression sur le préfet du Rhône, qui s'appelle Pascal Maillot, et sur le maire de Lyon, qui s'appelle encore Gérard Collomb, pour leur demander de faire quelque chose contre les actions de cette milice par ce groupe d'extrême droite qu'est Génération Identitaire, qui est avant tout une opération de propagande. On n'a pas besoin de milice pour faire ce genre de choses. Donc c'est toujours ultra inquiétant, surtout que le but de cette milice, c'est de faire passer des idées politiques nauséabondes, bien évidemment. Donc ils interpellent Pascal Maillot et Gérard Collomb pour demander qu'il y ait des actions publiques contre ces groupuscules de petits fachos. Voilà. La pétition tout à l'heure, c'était à 509 quand j'ai regardé signataire, mais vu que c'est paru dans la presse, ça va peut-être monter en espérant que ça fasse pression sur ces deux élus. Non, il n'y en a qu'un des deux qui est élu, le préfet n'est pas élu. Voilà, bon, en espérant que Gérard Collomb ne soit plus là bientôt. Le traître qui s'allie avec la droite dure.
Alors nous avons deux possibilités, parler de colonialisme
pas fini, mais...
ou d'économie. Ah bon oui. Alors excuse-moi, oui, ah oui, pardon, avec mes excuses. Voilà.
Un petit mot sur le contrôle des populations. Alors vous avez vu depuis la crise sanitaire le retour du fils de la vengeance de la vidéosurveillance automatisée qui s'installe dans l'espace public, détection automatique de port du masque, de la température corporelle, des distances physiques, etc. Alors, grosso modo, je vous avais parlé de la campagne Technopolis qui a été lancée il y a un an, il y a un site internet, il y a pas mal de choses, contre le déploiement de la vidéosurveillance automatisée. Or, en quelques mois, c'est répandu sous des prétextes sanitaires, dans de multiples villes, l'installation à nouveau de cette vidéosurveillance automatisée sous prétexte de santé publique. Donc ça a été fait pas mal. En exemple, là, vous avez Cannes, dans le métro parisien, la société Datacalab qui a fait installer son logiciel de détection de port du masque. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça fait quand vous n'avez pas le port du masque. Il y a peut-être un taser qui vous saute dessus, qui vous immobilise. Des mairies, des écoles ont mis en place de leur côté des caméras pour mesurer de manière automatique la température des personnes. Le but étant de ne pas les laisser rentrer si elles ont de la température. Je crois qu'il y a ça aussi mis en place à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Il y a eu aussi des mesures dans les transports à Cannes, des distances entre les personnes, etc., etc. Le problème, c'est que la multiplication de ces dispositifs sous des raisons sanitaires participe évidemment, et c'est le but, à la normalisation, à l'acceptation de la surveillance algorithmique, c'est-à-dire par des systèmes informatiques et automatisés. En fait, il ne s'agit pas de répondre, de résoudre un problème de santé publique, mais avant tout d'habituer les populations à ce genre de technologie. Puisque pour le contrôle des masques, par exemple, ça pourrait être un être humain qui le fait, les températures, ça pourrait être aussi un être humain avec un thermomètre. En fait, on n'est pas obligé d'automatiser, d'informatiser les choses, mais c'est pour faire accepter ce contrôle des populations que c'est mis en œuvre de manière automatique. Voilà. Alors, la question qui se pose, mais est-ce que c'est pas encadré tout ça? Si, il y a l'article 5 du RGPD, vous savez, le Règlement Général sur la Protection des Données, qui impose, je cite, que les données personnelles traitées doivent toujours être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Grosso modo, si on met une caméra qui regarde si vous avez le port du masque et qu'il existe une solution non automatisée, il faut préconiser la solution non automatisée. Ah, pourtant, c'est ce qui est installé, là, actuellement. Ah, il y a un agent qui surveille, ça s'appelle la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. La CNIL a même un moyen de pression, elle peut aller en justice et faire condamner les gens qui ne respectent pas, puisque c'est aujourd'hui interdit. Eh bien, la CNIL, ben, fait pas grand-chose. Voilà. À part faire des petits communiqués rappelant des règles générales, la CNIL, aujourd'hui, collabore, finalement, elle est à la botte du pouvoir et de l'implantation de celles et ceux qui se battent pour l'implantation de ces technologies invasives, des technologies de contrôle des populations. Alors, je pourrais détailler, il y a plein d'exemples là-dessus. Ce qu'on note, voilà, c'est surtout que la CNIL ne joue pas son rôle volontairement et ne va jamais en justice pour tout ce qui est en train de se mettre en place de manière automatique au nom de problèmes sanitaires qui peuvent être résolus sans ces systèmes-là. Ce coup-ci, c'est à toi, excuse-moi.
Alors, donc, je te proposais de parler de colonialisme ou de capitalisme.
Tu fais comme tu le sens.
Allez, un petit peu de capitalisme.
Ouais.
Je me suis rendue sur le site medef.com.
Ah ouais, moi j'y vais pas parce que je vomis à chaque fois.
C'est marrant. Hein.
Tu comprends. Ouais.
J'en souris, excusez-moi. Monsieur Geoffroy Roulebézieux a donné une interview aux Échos, au journal Les Échos. Et le principal est repris hein, sur medef.com. J'ai donc appris que, ouvrez les guillemets, l'exécutif doit dire aux Français, il est temps, tout en respectant les gestes barrières, de retourner travailler et consommer. Soyons clairs, nous attendons l'équivalent du « restez chez vous » du mois de mars.
Parce qu'ils pensent que les gens ne sont pas retournés bosser en partie, parce que l'État leur a dit « restez chez vous ». Quand votre patron il vous demande d'aller bosser, je pense que vous n'avez pas trop d'alternatives, alors à part la garde d'enfants qui peut être encore une excuse. Il vit dans un monde parallèle, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont retournés bosser sous la contrainte, en fait. Ou ouais, qui n'ont pas arrêté, d'ailleurs.
Il y en a qui, surtout, un paquet qui n'ont jamais arrêté. Hein. Mais, quand même, je tiens à mettre en parallèle notre idée de Geoffroy. Je le cite. Il estime « L'activité partielle de longue durée est un outil adapté aux entreprises qui sont aujourd'hui dans des secteurs en difficulté. » Donc, il est content quand l'État socialiste et communiste intervient pour aider les entreprises et souhaite donc que l'activité partielle de longue durée puisse être opérationnelle dès le 1er juillet. Il explique, chantage un peu à l'appui, je trouve, c'est une alternative aux plans sociaux. Donne-moi du pognon ou je vire tout le monde. Non mais c'est intéressant quand même comme stratégie. Voilà, c'était juste pour vous raconter ça. Medef.com, des fois il faut aller un peu regarder ce qui se passe dessus. Donc non, parce qu'il paraît qu'il faut être optimiste. J'ai lu ça sur des sites. En même temps il y en a à côté qui disent putain on est bien dans la merde des économistes. Donc je pense qu'on va pouvoir en régler quand même pendant un petit bout de temps et de voir au milieu le Medef et les autres organisations patronales hein, d'ailleurs nous expliquer comment on pourrait un petit peu travailler plus.
Pour pas le mieux. Même salaire bien évidemment.
Bah oui mais pas mieux tu vois voilà. On va partir en Corée du Sud, parler de Lee Jae-yong, c'est le petit-fils du fondateur de Samsung. Alors, pour rappel, il a fait partie du procès scandale de Madame Park, l'ex-présidente condamnée. Il a lui-même eu des petits soucis, hein, puisqu'il a été condamné donc, dans ce scandale de corruption, je vous rappelle. Bon, il a été libéré un an plus tard, il a de la chance, mais il a un nouveau procès. Enfin, il est content quand même parce que ça vaut peut-être le coup d'être un peu riche des fois. Moi je pense hein, quand même, même si bon, en Corée du Sud des fois c'est comme au Japon, ils aiment bien taper pour marquer un peu le coup. Il a échappé mardi à son placement en détention. Hein, le parquet avait demandé qu'il soit enfermé dans une boîte hein, pour en attente donc hein, de la poursuite et du procès de l'enquête sur la fusion controversée de deux filiales de Samsung. Donc là, il était quand même hein, dans un centre de détention. Il a donc été libéré. Il paraît qu'il s'est engouffré dans une belle berline noire, hein, parce que ça aussi c'est l'argent. Quand toi tu pars à pied, hein, et t'attends le bus quand tu sors de Gardave ou tu prends ton vélo. Bah non, bah, quand tu t'es fait embarquer, t'as pas ton vélo. Ouais. Donc tu finis à pied, 600, voilà. Lui, il s'est fait jeter dehors hein, quand même en pleine nuit. C'est ça aussi, hein, les pratiques à la sud coréenne. Alors bon, du côté de la magistrate qui donc a fait 9 heures d'audition hein, quand même, elle estime qu'il n'y a pas de raison pour maintenir son arrestation. Reste qu'effectivement, il va quand même devoir répondre de cette affaire de fusion. Alors ça concernait Samsung, Shell Industries et CMT en 2015. C'est une histoire de pognon, quoi, en fait. Hein. Il a voulu à la fois marquer son territoire et vouloir se faire de l'argent. Donc c'est pour ça que il a cette affaire aux fesses. En mai, il s'est excusé devant tout le monde, comme les Sud-Coréens savent le faire, pour tous les problèmes qui se passe à Samsung, c'est-à-dire toutes les scandales, les polémiques qui se multiplient. C'est quand même un de ces chabols, un de ces conglomérats qui quand même voit s'entasser les dossiers de corruption, de polémiques, de scandales, d'agressions, de plein de petites choses. Et il paraît que normalement, ça serait le dernier de la famille à être à la tête comme ça de Samsung. Après, il devrait y avoir d'autres personnes qui prendraient la suite de la dynastie Samsung. Voilà. Je continue. Alors ça c'est un peu les conséquences aussi hein, de cette période sanitaire particulière. Vous savez qu'il y a plein d'entreprises donc qui demandent de l'aide à l'État et qui l'obtiennent. Et on a l'Argic Arco, vous savez c'est la caisse des retraites complémentaires hein, pour les salariés du privé, oui. Qui a demandé 8 milliards pour face aux conséquences hein, de la crise sanitaire et puis pour payer les pensions de juin et juillet. Alors, c'est pas que pour payer juin et juillet, mais c'est pour commencer à voir un peu plus loin. L'argument qui était donc versé par le président qui est à la CFDT, qui s'appelle Jean-Claude Barboul, et le vice-président qui est au MEDEF, Didier Wegner, vous savez, hein, c'est des caisses qui sont... Bah, il faut travailler ensemble. Hein. Ouais. Alors, vous me direz, la CFDT et le MEDEF travaillent des fois ensemble.
Ouais, beaucoup.
Oh là là, je le dis pas trop fort. Mais c'est dit quand même. Alors, donc, les deux représentants de l'institution paritaire ont donc présenté leur projet en expliquant qu'il y a eu des décisions du gouvernement pour éviter les licenciements, pour éviter l'arrêt de certaines entreprises. Hein. Donc, c'est l'activité partielle, le chômage partiel, le report des cotisations, tout ça, c'est bien beau, mais ça fait des sous en moins dans les caisses. Fait réagir la caisse et donc on a besoin de trésorerie. Parce qu'en fait, il y a plein de sous hein, dans les caisses de l'Argic Arco. On parle de 65 milliards en 2019, mais c'est des obligations et des actions. C'est-à-dire que c'est pas de la pépette sonnante et trébuchante. Et puis, en plus de ça, bon, ça a un peu chuté, hein, les valeurs, tout ça, ben, c'est le principe.
Oui, mais bon, la majorité des personnes qui sont décédées du coronavirus, c'est des personnes âgées, donc qui étaient retraitées, donc qui doivent faire aussi des économies. C'est un peu glauque, mais c'est la réalité, non? Ils n'ont pas mis ça en avant, bizarrement.
Ben non, ils essaient plutôt de défendre leur caisse. Ils ont peut-être un peu raison quand même. En tout cas, la réponse de l'État, c'est non. Ils s'y sont mis même à plusieurs ministres, hein, puisque c'est un courrier du 29 mai que Le Monde a consulté. Alors, c'est le ministre de l'Action et des Comptes Publics, monsieur Darmanin, celui qui a des soucis d'agression sexuelle. Son copain là, de la santé, Olivier Véran. Et puis, le secrétaire d'État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. Voilà, donc tout ça, c'est rejeté. C'est non, c'est démerdez-vous. Voilà, bon, tout le monde n'a pas des sous dans cet état socialiste et communiste actuel. Et puis pour finir, juste j'avais envie de parler très rapidement avant qu'on passe au dernier sujet. D'abord, il y a la lutte des frichtiques. Je vous incite à suivre. Frichtiques, c'est un machin avec des gens qui livrent des bidules sans être salariés. Le problème, c'est que frichtiques n'est pas emmerdé d'avoir pris des livreurs à vélo sans papier. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que pour arriver à être régularisé avec l'aide de ton patron, de ta patronne, il faut que tu sois salarié. Ouais. Donc là, ces livreurs sans papier à vélo, mais il y en a qui ont des scooters hein, aussi, je dis à vélo, mais parce que c'est plus fréquent, demandent à être reconnus comme salariés par Frichti pour être régularisés, puisque l'enseigne a décidé de se débarrasser de ces livreurs sans papier. Comme ça, c'est pratique. Pas de papier, pas de contrat, tu dégages, t'es pas salarié. Hop, tu dégages encore plus vite. Voilà, donc c'est une lutte à suivre. Hein. Il y a des papiers un petit peu dans la presse. Il y a par contre Libération qui a fait un papier avec pas mal de témoignages. On les trouve évidemment sur tous les réseaux hein, commerciaux, sociaux, puisqu'ils sont soutenus, suivis par le collectif des livreurs autonomes de Paris, le CLAP. Donc c'est un réseau qui fait passer pas mal d'informations que vous pouvez suivre. Et puis je voulais parler de cette affaire, moi, que je trouve franchement triste. Ça s'est passé à Caen. Un salarié s'est suicidé. Il avait reçu sa lettre de licenciement. Alors, ce qui s'est passé, il a 46 ans, ça fait plus de 25 ans qu'il travaille chez Veolia, puis chez Coved. Il a travaillé pendant le confinement, et puis apparemment, il y a quelqu'un, un voisin, qui lui aura proposé avec son collègue de boire un petit coup.
Pour les remercier d'avoir travaillé pendant le confinement.
Voilà, ils se sont fait attraper, et ni une ni deux.
Licencié.
Ce qui apparemment il n'a pas supporté, perçu comme un outrage. Et il s'est suicidé à
suite. Il a revêtu son habit de travail et s'est suicidé.
Exactement. C'est terrible, moi, je trouve, cette affaire. La famille a décidé de porter plainte, de ne pas laisser faire. Là, il y a quand même quelque chose, c'est extrémiste. C'est-à-dire qu'on aurait pu. Déjà, une entreprise, quand on a du personnel qui pourrait être alcoolique, ce qui n'est absolument pas son cas, je tiens à le préciser, on aide plutôt son salarié ou sa salariée à sortir d'une dépendance, que ce soit l'alcool ou une drogue. Hein. On n'intervient pas comme des gros boulets en mettant les gens dehors. Là, il n'avait pas fait de faute. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de souci. Surtout qu'on lui a demandé, alors qu'il s'était fait pécho, de ramener le camion. Hein, quand même. Enfin, Donc c'est ça, c'est scandaleux, c'est précipité et c'est un manque d'humanité terrible. Et puis surtout, encore une fois, des employeurs doivent accompagner les salariés qui auraient une dépendance et qui seraient donc en difficulté. Voilà, moi je trouve ça très triste.
Alors vous avez vu que dans ces moments de mobilisation antiraciste au départ, et puis contre les violences policières au départ, qui sont très vite dérivées sur l'antiracisme, on a aussi un anticolonialisme qui est ressorti, et notamment avec des déboulonnages de statues représentant des colonialistes. Et je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre-Hippolyte Blandan, qui est plus connu sous le nom de Sergent Blandan. Donc militaire français, né à Lyon, le 9 février 1819, dans la rue qui s'appelle aujourd'hui la rue Constantine, juste derrière Radio Canu de mémoire, qui est mort, comme on dit, au champ d'honneur, le 12 avril 1842, on est 19e siècle, à Boufarik, donc ce qui est aujourd'hui l'Algérie. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il faisait partie des forces françaises qui essayaient et qui sont arrivées à envahir et coloniser l'Algérie. C'est donc ce combattant colonialiste qui donne le nom de la rue dans laquelle se trouve Radio Canu. Triste, hein, quand même. Alors pour la petite histoire, ce triste personnage, comme beaucoup de jeunes, peut-être un peu désœuvrés ou sans argent, ou issus de certaines familles, ça dépend, s'est engagé donc dans l'armée à 18 ans. En 1837, donc il est dans cette armée. Après, il passe donc cette armée dite d'Afrique, au 26e régiment d'infanterie de ligne, et il participe à des opérations militaires de conquête de l'Algérie. Il est nommé caporal en 1839 et sergent, donc le 1er février 1942. On va raconter comment il est mort, peut-être. Le 11 avril 1842, il conduit un détachement d'une vingtaine d'hommes qui est chargé de porter du courrier entre Boufarik et Beni Mered. Sa troupe est attaquée par 300 cavaliers arabes qui luttent contre la colonisation de l'endroit où ils vivent. Lui, il refuse de déposer les armes et il dit à ses soldats, je cite, « Courage mes amis, défendez-vous jusqu'à la mort ». Donc les secours sont alertés parce qu'en fait la bataille fait du bruit, ça vient de Boufarik, et quand le renfort militaire arrive, il y a eu pas mal de morts, dont le sergent Blandan, qui n'était pas sergent d'ailleurs, mais qui va le devenir, qui va mourir, si il est déjà sergent, qui va mourir donc en héros pour les colonialistes. C'est un héros de la colonisation glorieuse de l'Algérie. Alors il y a une statue qui va être érigée juste à côté, donc dans cette ville de Boufarik, bien évidemment et heureusement à la décolonisation, elle va être un peu abîmée et les colons vont la ramener en France. Elle va être mise dans une caserne de Nancy, d'ailleurs à Nancy il y a une rue qui va aussi porter son nom comme à Lyon, il y a une statue de Sergent Blandan sur la place à côté de chez nous. Donc voilà, effectivement, on a encore des traces du passé colonial de la France. C'est pas une légende, c'est pas un mythe. La colonisation a vraiment existé. Nous n'en sommes aucunement responsables, bien évidemment, nous, puisque nous n'avons pas vécu cette période-là et nous n'avons pas pu donner notre avis ni nous battre contre cette colonisation, ni pour, puisqu'on aurait pu être dans l'autre camp, ça aurait été dommage. Donc on n'a aucune responsabilité. Par contre, on a la responsabilité de rappeler qu'on a encore des noms de gens qui ont fait des actions à vomir. Hein, donc là, cette action de colonisation. Et ça existe toujours, bizarrement, ni Gérard Collomb, ni personne de la mairie du premier, d'ailleurs, n'a proposé de rebaptiser ni la rue, ni de virer cette statue. Moi, j'aurais bien vu cette rue changer de nom et s'appeler Louise Michel, par exemple. Avec une belle statue de Louise Michel sur la place Satonnet.
Je sais pas si elle aurait apprécié d'être
mise. Il y en a déjà, il y a des Square Luz, il y a un Square
Luz. Oui, non,
mais
c'est à vous d'avoir sa statue, tu vois. Oui, je pense qu'à un moment, il faut aussi penser à la personne que tu veux honorer, parce que ces statues, elles sont pas forcément pour l'histoire, mais aussi pour la mémoire, et c'est bien ça tout le problème.
Oui, mais là, du coup, voilà, on a une glorification d'un soldat de la colonisation.
Ah, bah c'est tout pourri.
Voilà, qui est juste devant Radio Canu.
Et donc il y a des statues qui sont aujourd'hui déboulonnées, enfin décapitées précisément. Il y en a une qui était déboulonnée, mais sinon elles sont décapitées, taguées, vandalisées. Les chiens leur font pipi dessus puisqu'ils n'aiment pas la police non plus. Et d'esclavagistes, de colons, de tout un tas de personnages qui sont aujourd'hui une insulte. Et en particulier dans ce mouvement antiraciste. Alors on a effectivement beaucoup entendu parler de cette statue dans la ville de Bristol en Grande-Bretagne, ou de ce marchand d'esclaves, voilà, ça, la statue, elle a viré.
Voilà, c'était carrément un marchand d'esclaves, quoi. À Bordeaux, ils ont enfin débaptisé des rues. Alors c'était pas en lien avec le mouvement, mais ça tombe pile à ce moment-là. Ça avait été décidé il y a un petit moment. Bordeaux, qui est la première ville esclavagiste française, hein, le port le plus important pour dans cette horreur-là. Donc il y a quand même des choses qui étaient en place déjà avant le mouvement là.
Et puis il y a alors un personnage qui est toujours dans le débat aux États-Unis d'Amérique, c'est Christophe Colomb, qu'on présente comme le grand découvreur, blablabla. Sauf qu'aux États-Unis d'Amérique, il représente aussi celui qui a fait rentrer les Européens sur le continent américain pour dévaster les populations autochtones, et ça s'entend, je trouve. Voilà, c'est ça s'entend.
C'est un grand découvreur, mais qui était dans son époque, avec effectivement le côté ultra négatif, parce qu'il pensait que effectivement les Européens étaient supérieurs aux autres, et donc il fallait amener la civilisation entre guillemets.
Et puis il y a le grand débat que moi j'ai adoré suivre les gens s'insulter et s'engueuler. C'est sur la décision de HBO Max de retirer pour l'instant de son catalogue le film Autant en emporte le vent, saga hollywoodienne d'une époque qui a toujours eu des gens qui ont contesté la représentation c'est plutôt idyllique du maître face à ses esclaves, c'est-à-dire un maître plutôt gentil. C'est une histoire d'amour, hein, quand même, Autant en emporte le vent,
mais ça se passe au sud, et du point de vue des sudistes.
Et aussi parce qu'à l'époque, c'était très très facile de faire un film en révisant l'histoire et en prétendant que les esclavagistes étaient doux, gentils, sympathiques avec leurs nègres. Tu vois, je veux dire, ça pose quand même un problème, ce genre de film. Donc nous ici, si vous nous écoutez, vous savez qu'on n'aime pas la censure. Par contre, ce qu'on aime, c'est contextualiser l'œuvre pour qu'elle puisse être débattue, et qu'en plus, on est persuadé que en plus ça, si on cache des livres, des films, des essais racistes, le jour où ils sont découverts par des gens avec un fond à tendance un peu raciste, c'est un nouvel ouvrage dont les gens peuvent se resservir et sortir, en particulier dans les milieux complotistes. Alors que si l'œuvre reste visible et par tous et toutes, on peut la critiquer et la mettre en exergue en disant ça, c'est un film raciste qui révise l'histoire quand même aussi, il faut le dire. Et voilà, maintenant à vous de le regarder en tenant compte, ou de ne pas le regarder en le sachant aussi. Et je trouve que voilà, mais on a eu tout de suite les fachos qui sont montés en puissance en disant mais c'est scandaleux, on veut faire de la censure. Non, HBO Max a jamais dit vouloir censurer le film. D'abord, il faut lire les trucs en entier, quoi. Et puis en plus de ça, oui, il y a un problème avec ce film comme d'autres œuvres, et donc on doit pouvoir les critiquer. Il faut pouvoir les mettre à disposition pour éviter que ça puisse être utilisé à des fins là on parle de racisme, mais ça pourrait être de répression, de je ne sais quoi d'autre. En tout cas, c'est notre position ici. Mais voilà,
la censure, même quand elle est sous une bonne idée, elle conduit au fascisme obligatoirement.
Mais parce que le problème de la censure, c'est qu'elle amène à décider ce qui est bien et mal, et juste et injuste, et que le juste et le injuste, même ça, ça va poser un problème dans notre démocratie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir mettre des labels et des tampons quand une œuvre est raciste.
Voilà, on lit pas Tintin au Congo, voilà, comme dans les années 60. Il faut vraiment qu'il y ait une contextualisation sur cette œuvre-là, qui explique bien, voilà, que c'est un point de vue d'un colonialiste belge. Là, c'est pareil pour mais pas supprimer l'œuvre elle-même, sinon on est aussi fasciste que
Par contre, la laisser dans une librairie Tintin au Congo sans en prendre la mesure du contenu, moi je trouve ça assez scandaleux. C'est ça aussi qu'il faut savoir juger.
C'est ça,
parce
la contextualisation, il faut qu'il y ait un écriteau dessus, il faut qu'il y ait des pages
qui expliquent
au début.
Il faut qu'il y ait libraire, évidemment. Voilà. C'est là où après, si tu sais si ton libraire il est raciste ou pas, ou si elle est raciste ou pas, c'est si jamais elle t'accompagne sur ce genre d'ouvrage pour te dire attention, là vous savez quand même, il peut se passer des choses à l'intérieur. Mais bon, il paraît que Zemmour a un succès fou, donc.
Ouais, c'est mal parti.
C'est mal parti.
Et Trump a un succès fou aussi encore aujourd'hui, hein, mais il a lui aussi répondu à des problèmes liés à la colonisation, puisque ils ont des bases, il y a 10 bases de l'armée de terre américaine qui portent le nom d'anciens militaires esclavagistes sudistes, et donc il s'est exprimé comme d'habitude sur Twitter, hein, en disant qu'il était hors de question de changer le nom de ces bases militaires, alors que le ministre de la Défense mardi dernier, il y a deux jours, avait dit qu'il était ouvert à la discussion. Là, Trump il a dit non, moi je défends toujours les esclavagistes du Sud. Point. Voilà. C'est pas beau, la vie. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour.
Eh ben oui, nous allons vous laisser dans ce monde magnifique, dans lequel, non mais il y a des trucs bien hein, quand même. Hein, voilà, il y a évidemment, on va pas vous irez voir, hein, pour, il y a plein de rendez-vous, de manifestations.
Oui, bah, il y a au moins celle de Lyon, là, la prochaine c'est samedi, on sera le 13 juin, et je crois que c'est devant l'ancien palais de justice, là, les 24 colonnes, et par contre j'ai perdu l'heure, 14h, voilà.
Voilà.
Et contre le racisme et les violences policières.
Mais bon, moi, je tiens à dire qu'il paraît que les policiers sont outrés dans leur runner et puis qu'ils sont blessés. Alors, on va leur apposer toutes les photos de ceux et celles qui sont pris des trucs dans la gueule.
Voilà.
Et
je vous rappelle qu'il est toujours interdit de manifester et que la fin de l'état sanitaire va arriver en juillet, normalement, et que le gouvernement s'est gardé le droit pendant 4 mois d'interdire toute manifestation. Donc, on a le droit d'aller s'entasser au restaurant, d'aller s'entasser dans les bars, d'aller s'entasser dans le métro. Mais par contre, être à côté pour lutter, le gouvernement s'autorise le droit de censurer, d'interdire tout ça. C'est pour ça que peut-être qu'il faut aller aux manifs, justement, pour leur dire qu'on ne pliera pas.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire qu'on a un état d'exception, une crise sanitaire.
C'est toujours mauvais. Et surtout qu'ils vont transcrire dans la loi l'état d'exception.
Et puis que d'un seul coup, on nous met ce qui était exceptionnel comme pouvant être utilisé quand même de temps en temps. C'est un peu moins exceptionnel, mais quand même de temps en temps, et puis jusqu'au jour où ça sera utilisé complètement et normé. Voilà. Bon, en tout cas, on était donc en train de vous dire qu'on va se retrouver, nous, la semaine prochaine avec vous, on l'espère, et qu'on vous souhaite une bonne fin de semaine. Il y a tout plein d'émissions à écouter sur Radio Canu, il y a les bandes continues. Voilà, restez à l'écoute, bien évidemment.
Ouais,
mais tout de suite, c'est les bandes continues. Ouais, ciao.
Exactement.